On va revenir dans cet entretien du 18h et bien sur les résultats des élections européennes en France qui a précipité qui ont précipité la décision du président français Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale avec des élections législatives anticipées à venir le 30 juin prochain et le 7 juillet puisque vous le savez en France ce sont des élections à deux tours. On en parle, enfin Lucie Gilson en parle avec Marc Nobel, il est historien, essayiste et spécialiste de l'antisémitisme. Voici leur échange.
Marc Nobel, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes historien, essayiste et spécialiste de l'antisémitisme. Hier, les Français étaient appelés aux urnes pour s'exprimer sur les élections européennes. Résultat, on l'attendait un peu, victoire écrasante du Rassemblement national qui obtient son meilleur score depuis 1984. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur cette victoire. Quels sont les facteurs qui ont conduit à cela en France? Est-ce que, à votre avis, c'est lié à un engouement pour la personne de Jordan Bardella, sa jeunesse, ou c'est un vote massif de défiance contre la majorité présidentielle?
Alors, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être émises quant à l'engouement et au vote en faveur du Rassemblement national. En effet, il est possible que la personne et la jeunesse de Jordan Bardella, qui sait bien jouer de sa personne et qui sait également séduire une partie de la jeunesse, il est possible que cela, en effet, ait pu porter et qu'il ait réussi justement à séduire une partie de la jeunesse. Il y a aussi un vote de défiance à l'égard d'Emmanuel Macron, parce que moins que de voter probablement pour un programme, un certain nombre d'électeurs ont voté par défi contre Emmanuel Macron, qu'il ne supporte plus, qu'il pense subir ou qu'il subisse. Et ce vote de défiance est sûrement très, très important. Enfin, il y a une troisième hypothèse de travail, c'est qu'un certain nombre d'électeurs, et donc par conséquent de Français, se disent « on a tout essayé, on a voté pour la gauche, on a voté pour la droite, les uns et les autres ont été au pouvoir et finalement cela ne fonctionne pas, on n'a pas suffisamment fonctionné à leurs yeux et donc nous allons essayer et nous allons voter pour le Rassemblement national qui lui n'a pas eu le pouvoir. Nous allons donc tester les capacités du RN à venir au pouvoir et voilà donc ». Selon moi, quelles sont les trois hypothèses en tant que telles?
Alors, manifestement, l'hypothèse retenue en tout cas par Emmanuel Macron, c'est le vote de défiance contre sa majorité, puisqu'il a décidé la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi utiliser cette prérogative aujourd'hui? Comment l'analyser? Parce que c'est quand même une manœuvre qui est à double tranchant, on l'a vu par le passé.
Alors, je pense que la seule personne qui puisse répondre à cette question sera le président de la République lui-même. On a l'impression que cela s'est fait en toute précipitation, au sortir des résultats catastrophiques de sa majorité. Je rappelle quand même que la liste de Valérie Ayer a obtenu un peu plus entre 14 et 15 %, donc c'est très peu, et en vérité, il s'agit de listes distinctes, celle d'Édouard Philippe, Horizon, les supporters de Renaissance et une autre composante de la majorité. Donc, c'est très peu. Donc, je pense que cela a pu jouer. Je pense aussi que le président de la République est dans une fin de non-recevoir, en fait, et qu'il se rend compte que les résultats de sa majorité ont été catastrophiques, qu'il ne pourra pas gouverner. Et plutôt que d'entendre son Premier ministre qui avait proposé de démissionner, il a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale. Et c'est un pari qui est extrêmement audacieux, mais en même temps très dangereux. On a l'impression qu'il joue un peu à la roulette russe, en fait. Donc, et à ce jeu, il pourrait se brûler, parce que qu'est-ce qui nous fait penser que demain, il ne devra pas composer avec une majorité d'extrême droite. Et au fond, que le RN ne sera pas demain au pouvoir et que le Premier ministre, ou la personne de Bardella, peut-être si c'est lui, ne sera pas justement son Premier ministre.
Oui, c'est un peu la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est bien sage dans le climat politique de défiance actuelle, à votre avis? Et aussi, dans une hypothèse de cohabitation avec le RN, quelles sont les hypothèses qu'on peut formuler? Quel serait l'impact sur la politique interne de la France?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le président a la prérogative sur les affaires de défense et de politique étrangère. Donc, il a la haute main. Un président de la République a la haute main sur ces questions-là. Ce sont des questions très importantes, défense, politique étrangère. Après, un Premier ministre et un gouvernement gouvernent. Donc, ils proposent au président de la République un certain nombre de dispositions et les appliquent. Et nous avons vu que dans d'autres périodes de cohabitation, au moment où Mitterrand avait dû composer avec Jacques Chirac, ou au moment où Jacques Chirac avait dû composer avec Lionel Jospin, les choses étaient loin d'être faciles pour les présidents de la République de l'époque, à savoir et François Mitterrand et Jacques Chirac. Donc c'est un jeu dangereux, et surtout qu'il peut y avoir une légitimité qui puisse être donnée en fonction des résultats que nous aurons lors des législatives, c'est-à-dire en fonction du nombre de députés du RN. Alors il y a déjà des sondages qui avaient été publiés, certes il y a longtemps, notamment au mois de décembre 2023 et tout début du mois de janvier, qui créditaient le RN de 150 à 300 députés. Vous rendez compte? Donc ça serait une majorité de députés RN qui pourraient alors faire quasiment ce qu'ils voudraient. Reste à savoir comment le président de la République, dans ce scénario-là, pourrait échapper à toutes ces difficultés, les contourner, réduire leur influence, et que feront aussi les députés de RN. Par exemple, vont-ils, eux aussi, affronter le président de la République et vouloir faire passer en force un certain nombre de leurs mesures, ou bien vont-ils vouloir adoucir un certain nombre de leurs prérogatives et de leurs programmes en vue de l'élection présidentielle qui aura lieu en 2027? On ne le sait pas encore.
Alors maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de l'autre extrémité de l'échiquier politique, qui sont les partis de gauche qui appellent aujourd'hui à un front populaire contre l'extrême droite aux législatives anticipées. Est-ce que ces élections européennes pourraient avoir un autre impact, celui de permettre au paysage politique français de finalement transcender ces divisions?
Alors, nous avons aujourd'hui un climat politique en France qui est totalement vicié. Et ce sont les extrêmes que l'on voit émerger, en fait, que l'on voit surtout s'exprimer. Vous savez, la droite, la droite républicaine et démocratique, son influence a considérablement baissé. Les Républicains, c'est 7%. Voilà, donc c'est très peu. Le Parti socialiste remonte, mais s'il remonte, c'est parce que beaucoup de gens ont choisi de voter pour un homme plus que pour un parti. Un homme et son projet, en la personne de Raphaël Glucksmann. Et nous voyons d'ores et déjà les difficultés qu'il pourrait y avoir entre Raphaël Glucksmann, qui n'est pas encarté au Parti socialiste, et l'appareil représenté par Olivier Faure, qui lui veut composer avec la France insoumise. Mais la France insoumise, elle, rêve de cela. En fait, rêve que Mélenchon soit Premier ministre. C'est ça le rêve de la France insoumise. Sauf que les programmes sont irréconciliables. Et que la France insoumise n'acceptera pas de composer si les partis de gauche ne suivent pas son programme politique. D'ailleurs, cela a été rappelé dans un communiqué de presse que la France insoumise a publié pas plus tard qu'hier soir, où elle rappelle 7 de ses fondamentaux. En fait, elle dit il faut qu'il y ait une union populaire, il faut recréer la NUPES, mais autour des 7 points fondamentaux qui sont les nôtres. Donc, est-ce que la gauche social-démocrate voudra composer avec la France insoumise, sachant par ailleurs que la France insoumise a été d'une brutalité sans nom à l'égard de la gauche social-démocrate, qu'elle a traîné dans la boue un certain nombre de ses dirigeants, et notamment Raphaël Glucksmann, et qu'il y a eu tant de divisions entre eux, comment les choses vont se passer? Ou bien est-ce qu'ils vont vouloir composer les uns et les autres pour sauver quelques strapontins électoraux et donc sauver la mise et faire fi de leurs divisions et des haines qui ont pu se développer chez les uns et chez les autres? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas, on saura d'ici quelques jours.
Alors maintenant, je voudrais aborder la stratégie du Rassemblement national. Quelle pourrait être sa stratégie justement pour transformer cette victoire aux européennes en succès lors de ces élections législatives? On a déjà vu qu'il y avait un rassemblement de ce côté-là aussi aujourd'hui, avec notamment Marine Le Pen, Jordan Bardella et Maréchal Le Pen, il me semble. Donc comment est-ce que ça pourrait... est-ce qu'il y a des velléités de s'associer aussi également, de faire un bloc?
Alors, c'est Éric Zemmour, le patron de Reconquête, n'a jamais caché, il souhaitait une union de toutes les droites. Bon, mais c'était, il le souhaite toujours, il l'énumère toujours. Il l'a dit pas plus tard qu'hier soir, il l'a redit. Sauf que Reconquête, ce n'est que 5% d'un électorat, c'est rien, ça ne pèse pas. Donc en fait, et donc ils ont probablement 4 députés européens, ils sauvent les meubles, si je puis parler ainsi. Ils ne sont pas en capacité de peser de quelque manière que ce soit face au RN. Et s'ils veulent avoir au moins un député, peut-être deux, à l'Assemblée nationale, ils vont devoir sérieusement composer avec le RN, c'est-à-dire faire tête basse en fait, pour espérer eux aussi engranger quelques succès, et puis pourquoi pas avoir un secrétaire d'État ou un ministre, si par malheur, jamais, l'extrême droite venait au pouvoir d'ici un mois. Bon, donc, voilà, il y a cette recomposition qui se fait, qui est en train de se faire. Les appareils politiques sont en pleine ébullition en France. C'est vraiment ce qui se passe ici, c'est le chaos, en fait. Moi, j'ai toujours vécu en France, je n'ai jamais vu une situation pareille. C'est-à-dire, c'est le chaos dans tous les sens du terme. Donc, les uns et les autres se préparent, vont s'entretenir, vont réfléchir. La campagne électorale, par ailleurs, va être extrêmement courte. Et le premier tour de l'élection législative aura lieu dans 3 semaines. Demain. C'est très peu pour élaborer une stratégie, très peu pour se réunir, c'est très peu pour composer, c'est aussi très peu pour attirer un électorat. Sauf pour les extrêmes, et en particulier les extrêmes qui ont déjà engrangé des succès lors des européennes. Et on pense à qui ? Au Rassemblement national.
Eh bien, Marc Nobel, je rappelle que vous êtes historien, essayiste et spécialiste de l'antisémitisme. Je vous remercie pour cet éclairage et à bientôt.
Merci à vous. Au revoir.